Politique américaine, Vincent Gosselin.
Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio communautaire de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir maintenant de rejoindre notre ami Vincent Gosselin pour évoquer la nomination de la 30e gouverneure générale du Canada. C'est Mary Simons, un petit événement puisque c'est la première autochtone à représenter la monarchie britannique en 154 ans d'histoire. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Laurin.
Vincent, est-ce que vous voulez commencer peut-être par nous rappeler dans quelles circonstances Madame Simon va prendre ses fonctions et peut-être revenir un petit peu sur la rocambolesque fin de règne de Julie Payette, sa prédécesseur?
Oui, Madame Simon va prendre le relais à Rideau Hall dans un contexte de soulagement après des tensions entre les employés et l'ex-gouverneur général Julie Payette. Je vous rappelle brièvement les faits. Julie Payette, qui était en fonction depuis 2017, avait été nommée par M. Trudeau, qui pensait marquer un coup de circuit en nommant une vedette, une femme astronaute, qui avait une image assez exemplaire. Mais il a outrepassé le comité qui avait été mis en place par Stephen Harper pour la nomination des gouverneurs généraux. Alors, en outrepassant ce comité-là, il y a des informations qui lui ont échappé, comme par exemple le fait que Julie Payette, lorsqu'elle dirigeait le Centre des sciences de Montréal de 2013 à 2016, eh bien, elle avait fait régner un climat toxique parmi ses employés, ce qu'elle a refait à Rideau Hall, et les allégations sont sorties publiquement, entre autres par la CBC, et un rapport indépendant les a confirmés. Alors, Mme Payette, qui a démissionné en janvier de cette année, on a passé 5 mois sans gouverneur général. C'était le juge en chef Richard Wagner qui assumait les fonctions d'administrateur du Canada. Alors, Mme Simon, qui a été sélectionnée avec beaucoup plus de minutie qu'avec Mme Payette il y a 4 ans de cela, M. Trudeau a mis en place un nouveau comité. D'accord. C'est pas celui que Stephen Harper utilisait, c'est un nouveau comité, mais qui a fait la sélection et qui est arrivé à une courte liste de noms. Et au final, c'est le nom de Mme Simon qui en est ressorti et qui entrera très bientôt à Rideau Hall, parce que quand même 5 mois sans gouverneur général, c'est important, surtout en situation de parlement minoritaire. Si Justin Trudeau, selon toute vraisemblance, veut aller en élection à la fin de l'été, au début de l'automne, eh bien, il va avoir besoin d'une gouverneure générale en place. Donc, l'assermentation, on appelle ça l'installation à Rideau Hall, devrait se faire prochainement.
Alors, merci pour tous ces rappels, Vincent, et vous l'avez très bien dit, Justin Trudeau, qui a été, dont on lui a beaucoup reproché le fait d'avoir nommé d'une manière assez unilatérale Madame Payette, a promis donc de renforcer et d'améliorer l'évaluation des antécédents des personnes auxquelles sont confiées des fonctions d'une telle importance. Mais peut-être faudrait-il rappeler pour nos auditeurs également quelle est la fonction de ce gouverneur général.
Oui, le gouverneur général, c'est un poste important au Canada, bien qu'il ait l'air seulement honorifique. C'est quand même le représentant de la reine du Canada. En monarchie constitutionnelle, c'est notre système actuel, eh bien, c'est la reine qui est la chef de l'État canadien. Et donc, parce qu'elle n'est pas au pays, elle a un représentant. Et c'est le gouverneur général qui agit comme le chef d'État de facto. Et donc, qui exerce tous les pouvoirs de la reine, du chef d'État au Canada. Alors, quand on parle de pouvoirs très importants, ben, c'est la sanction royale. Pour qu'un projet de loi ait force de loi, qu'il devienne officiellement une loi, il faut la signature du gouverneur général. Alors, sans gouverneur général, il n'y a pas de loi parce que les projets de loi resteraient projets de loi. Également, le gouverneur général a le pouvoir de dissoudre le Parlement. En situation de Parlement minoritaire, un gouvernement minoritaire comme actuellement, c'est important parce que lorsque Justin Trudeau, c'est fort probable qu'il veuille aller en élection, il devra aller voir la gouverneure générale pour que celle-ci pose sa signature pour dissoudre le Parlement. gouvernement. Bon, ça, ce sont les fonctions les plus courantes, les plus flamboyantes que le gouverneur général fait. Sinon, il y a aussi un devoir de représentation du Canada à l'étranger.
Oui, oui.
Donc,
là,
un certain rôle.
Un rôle plus protocolaire, plus international.
Oui, un petit rôle diplomatique, bien que ce soit surtout le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui font la représentation à l'international. Le gouverneur général en fait quand même un peu. Il y a aussi tout un devoir d'honneur avec les distinctions, les prix de l'Ordre du Canada et toutes ces médailles remises par le gouverneur général. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc, le gouverneur général qui n'a pas de pouvoir politique concret, aucune influence législative, aucune influence exécutive vraiment, comme on l'entend dans le sens du Conseil des ministres, mais sur le plan symbolique, ça reste symbolique, mais quand vient le temps de parler de débat constitutionnel, ben, le gouverneur général, c'est le gardien de la Constitution. Donc, en tant que chef d'État, le gouverneur général reste et demeure un poste très important, et parfois ce sont des quelques actions, là, comme quand viendra le temps de dissoudre le Parlement, c'est une petite action qui est très importante. Alors, le gouverneur général, c'est entre autres un rôle qui consiste à garder la Constitution et à assumer quelques obligations constitutionnelles quand vient le temps de dissoudre le Parlement ou d'imposer la sanction royale.
Voilà, un rôle qui est quand même nettement plus important qu'il n'y paraît au premier regard. Et est-ce que vous voulez, Vincent, peut-être nous expliquer maintenant qui est Mary Simon exactement? Sa nomination semble faire date. Beaucoup parlent d'un choix historique dans le contexte de recherche des pensionnats autochtones et de recherche de nouvelles dépouilles. Il y a toute une prise de conscience qu'on est en train de vivre en ce moment. J'imagine que cette nomination dans ce contexte n'a rien d'anodine.
Non, voilà, la nomination survient à moins d'une semaine de la dernière découverte de corps sur un site d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique. Alors, c'est très, très symbolique. Madame Simon, qui est originaire du Nunavik, au nord du Québec, sa langue maternelle, c'est l'Inuktitut. Elle est née, donc, au nord du Québec, une Inuit d'origine. Par la suite, elle a déménagé au sud du Canada pour étudier dans une école de compétences fédérales. Donc, elle a appris l'anglais dans une école fédérale. Elle est bilingue, Inuktitut et anglais. Ça a été critiqué, le fait qu'elle ne parle pas français. J'imagine qu'on y reviendra dans les prochains instants. Mais pour terminer sur le portrait de Mme Simon, elle a été toute sa vie impliquée pour la reconnaissance des droits des Premières Nations. C'est aussi une ancienne diplomate canadienne. Donc, elle a une expérience diplomatique. Elle a, entre autres, occupé un poste au Danemark pour le Canada. Oui. Alors, une dame qui est très respectée à Ottawa et la première Inuit, la première autochtone à occuper la fonction de gouverneur général en 154 ans de Confédération. Et c'est là tout le symbole du fait que ça arrive au bon moment. Quand la réconciliation revient dans l'actualité, il faudra prendre tout le monde, doit se poser des questions, tout le monde retombe en réflexion sur notre passé. Et là, du fait qu'on nomme une gouverneure générale autochtone, c'est symbolique, mais c'est aussi important du fait que les Premières Nations, plusieurs Premières Nations, ont signé des traités avec la couronne britannique. Donc, en vertu, entre autres, des accords d'autonomie gouvernementale et de la proclamation royale de 1763, eh bien, il y a plusieurs Premières Nations qui ne sont pas soumises au gouvernement fédéral, mais bien à la couronne. Alors, le fait d'avoir une autochtone qui est la représentante de la reine, ça pourrait venir changer le comportement ou la relation des autochtones avec le gouvernement et la couronne. Ça va être intéressant de regarder ça. Donc, c'est symbolique, mais ça pourrait aussi avoir une influence autre que seulement le symbole.
Voilà, une nomination hautement symbolique et qui va, semble-t-il, dans le sens de l'histoire. Un CV qui est quasiment irréprochable, mais vous l'avez très bien mentionné, Mary Simons lui a été reproché de ne pas parler français dans un pays bilingue. Ça pose problème. Est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Oui, c'est ça, parce que hier à la conférence de presse avec le premier ministre Trudeau, Mme Simon n'a prononcé qu'une seule phrase en français, et encore là, c'était laborieux. Donc, elle ne parle pas du tout la langue de Molière, c'est critiqué, et ça reste un problème. Mais on s'entend pour dire qu'il n'existe pas de candidat parfait au poste de gouverneur général. Alors, M. Trudeau a réussi à trouver une autochtone qui était prête à assumer cette fonction. Il a sauté sur l'occasion de marquer l'histoire. Et en plus que ça arrivait à point avec les découvertes et la réconciliation qui revient dans l'actualité. Mmh. Alors, bien sûr, il n'y a pas de candidat parfait. Mais Mme Simon, elle a dit « Je suis bilingue, inuktitut et anglais », mais elle s'est engagée très fermement à apprendre le français parce qu'elle veut travailler dans les deux langues à Rideau Hall. Elle a compris l'importance de la langue française. C'est un engagement qu'elle a pris. On va voir à quel point elle va s'améliorer rapidement en français, mais c'est très critiqué, mais aussi ça vient briser, avant on interchangeait, ça vient briser l'ordre d'interchangement entre un francophone et un anglophone au poste de gouverneur général. Normalement, il y avait un francophone, un anglophone, et ainsi de suite. Là, on a quelqu'un avec une langue maternelle inuktitut. Ce changement-là est pas négatif en soi, mais elle ne maîtrise pas la langue française. On va voir si ça va prendre combien de temps avant que la situation soit réversée, réversible avec son apprentissage de la langue française, mais c'est très critiqué en ce moment, entre autres dans les communautés franco-canadiennes.
Voilà, et puis pour terminer sur ce point, peut-être d'une manière un petit peu plus anecdotique, on a lu également chez certains de nos confrères les coûts des travaux qui ont été engagés à Rideau Hall par la prédécesseur de Madame Simon Julie Payette pour plus de $250,000 de dépenses, et on y ajoute encore $40,000 pour réaménager l'espace pour Madame Simon, et cela fait un petit peu polémique chez certains. Je sais que certains politiciens, notamment au Bloc québécois, sont en faveur de l'abolition de cette fonction honorifique. Est-ce qu'il faut y voir un vrai débat ou est-ce que cela reste anecdotique?
Ben, concernant l'abolition du poste de gouverneur général, il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir abolition du poste sans une abolition complète de la monarchie au Canada. Donc, pour abolir le poste de gouverneur général, il faudrait apporter un changement à la Constitution pour changer de modèle de gouvernement. Donc, passer de la monarchie constitutionnelle à une autre forme de gouvernement, comme la République, par exemple. Et on s'entend pour dire que modifier la Constitution, c'est loin d'être simple. Ça prendrait, donc oui, le consentement des deux chambres du Parlement fédéral, le Sénat et la Chambre des communes, mais ça prendrait aussi l'accord de 7 provinces sur 10. Donc, que 50% de la population du Canada soit représentée, ça veut dire 7 provinces, 7 assemblées législatives sur 10. C'est long, c'est des négociations laborieuses si on veut abolir la monarchie. Donc, le poste ne peut pas être aboli tout seul. Pourquoi? Parce que la reine n'exerce pas les fonctions de chef d'État concrètement chaque jour. Elle est quand même chef d'État de plusieurs États dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'on a le gouverneur général et on ne peut pas non plus donner l'ensemble de ces pouvoirs-là au premier ministre. Ce serait beaucoup trop de concentration de pouvoir le chef du gouvernement qui est aussi le chef de l'État. Oui. Sachez que le premier ministre a beaucoup plus de pouvoir que le président américain. L'image qu'on a du président américain, c'est d'un homme puissant qui a beaucoup de pouvoir, alors qu'en réalité, le président ne peut pas faire grand-chose tout seul. Mm-hmm. On a un gouvernement de confiance au Canada, alors qu'aux États-Unis, ils ont un gouvernement de méfiance. Alors, quand on parle d'abolition du poste de gouverneur général, ça veut dire un changement de la Constitution, une abolition complète de la monarchie, et pas juste l'abolition de la monarchie, c'est aussi le remplacement de la monarchie, parce qu'il faut remplacer par autre chose. Le premier ministre ne peut pas devenir le chef de l'État. Il faut quelqu'un au-dessus du premier ministre. Alors, quand on pense à ça, c'est de longues négociations constitutionnelles. Si on se souvient du rapatriement de la Constitution en 82, ça avait été très houleux avec René Lévesque au provincial au Québec, avec toutes les provinces qui avaient négocié avec le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau au fédéral. Donc, la question, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais essayé de se départir de la monarchie, c'est la réponse, c'est surtout, est-ce qu'on a l'argent et le temps à investir dans des négociations qui, au final, ne changeront rien à la vie quotidienne des citoyens? Mm-hmm. C'est là, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et puis, quand on parle des travaux que Julie Payette a fait faire, bon, ça aussi, ça fait polémique, bien sûr, mais une chose qui est possible de changer, c'est la pension à vie qui est donnée aux gouverneurs généraux après leur mandat. Julie Payette, qui est repartie, elle n'a pas terminé son mandat. Elle est repartie avec une pension de retraite de plus de 100 000 $ à vie. Ça veut dire que c'est énormément d'argent public qui est versé aux gouverneurs généraux toujours en vie. C'est possible de le changer par la loi, sans passer par la Constitution. Donc, certains députés qui proposent d'éventuellement déposer un projet de loi en ce sens-là, ça se fait plus facilement qu'une abolition du poste de gouverneur général qui doit passer par un changement de forme de gouvernement.
Bien, merci beaucoup Vincent Gosselin sur les ondes de choc de nous avoir rappelé le rôle du gouverneur général au Canada dans le cadre de cette nomination de Mary Simon qui donc sera la prochaine gouverneure générale et la première femme autochtone pour ce poste protocolaire dans l'histoire du pays.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.